Bienvenue à Escal 1718 avec Fulgence Blau au micro et Nicolas Vatman à la technique en cette belle journée ensoleillée, chaude. Voilà, 15 degrés quand même, ça se prend, hein. Tu peux allumer ton micro s'il te plaît?
Bien sûr.
Je pense que tu en as profité un peu toi.
Pas encore, puisque j'ai plusieurs émissions dans la journée, mais cependant, je vais en profiter aussitôt après celle-là, je vais aller prendre une petite marche dehors.
Ouais, il aura encore du soleil quand on va sortir, si je ne me trompe pas. Merci Nicolas. Et en première partie d'émission, c'est Myriam qui va nous parler de la clôture des Jeux Paralympiques, tennis et puis soccer avec le CF Montréal Soccer, le soccer pour les uns et le foot pour les autres. Voilà, en deuxième partie d'émission, je reçois Stéphane Dompierre qui va nous parler de son... Il est auteur et éditeur en même temps. Il va nous parler de son nouveau livre, Novice. Oui, pour ceux qui veulent en savoir plus et qui ne l'ont pas, il est en librairie depuis, si je ne me trompe pas, depuis le 1er mars 2022. C'est un tout nouveau, c'est son 7e roman. Alors, restez à l'écoute. On part tout de suite en musique avec Jacob Banks, Found.
Now what do I do with this love I found? What do I put in the hole inside the ground? Oh, I'm falling higher, flying deeper. Oh, the love I found. What do I do with the smile trapped in my mouth? How do I prove there's a ghost this time around? It's like catching fire, walking on water. Oh, the love I found. Say the word and I'll burn. Play the chord and I'll bleed some more. We ain't getting younger. Age's just a number. Oh, oh, oh. Maybe clouds won't break my fall. Maybe it will. Time's getting older, the light's getting closer. Oh, oh, oh. So what do I do with this love I saved for you? What do I move to the space I held for two? Can you taste the choir? Can you feel the whisper? Oh, the love I found.
Alors, comme tous les jeudis, Myriam l'arrachait déjà au bout du fil, qui va nous parler du sport. Quoi, c'est bien. Voilà, la clôture des Jeux Olympiques, et le tennis et le soccer pour les uns et le foot pour les autres, comme je le disais, avec le CF Montréal. Bonjour Myriam l'arrache.
Bon après-midi à tous, bon après-midi Fulgence.
Oui.
Et moi aussi, comme Nicolas, je ne suis pas encore sortie. Profiter du soleil dehors.
Ouais.
Alors peut-être qu'on va se rencontrer en chemin dans notre balade.
Voilà. Alors tu vas nous parler de comment nous faire le résumé des Jeux Paralympiques.
Exact. Alors,
qui viennent de se terminer.
Oh, pardon. Exact.
Oui, et puis ensuite un peu de tennis et puis un peu de soccer, quoi, voilà, avec le CF Montréal. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait encore, je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait.
Ouais. Alors, ça te dit tout. Bon, Alors, clôture des Jeux donc paralympiques. Et ben, la flamme paralympique s'est éteinte dimanche sur les Jeux d'hiver de Pékin. On va presque dire ouf, hein, parce que il n'y a pas eu d'explosion, de contamination, moins de drames qu'aux Jeux donc olympiques un mois avant.
Alors, oui, oui.
Après 10 jours de performances exceptionnelles des Chinois et des Ukrainiens, il faut quand même le souligner, respectivement, ils ont terminé en tête des médailles. Le Canada, lui, a fini 3e avec 25 médailles, 8 en or, 6 en argent et 11 en bronze.
Ouais. Et félicitations à ces athlètes.
Exact, on en avait parlé la semaine dernière, tous les exploits qu'ils ont faits, notamment McKeever. Alors, pour celle qui a été choisie, eh ben, pour porter notre porte-drapeau lors de la cérémonie, c'est la paraskieuse alpine Molly Jemsen qui était notre porte-drapeau. Rappelons que la britano-colombienne de 22 ans, pas mal jeune, a remporté donc 2 médailles à Pékin, en or en descente et l'argent au slalom géant. Par contre, alors, le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, a prononcé un discours comme d'habitude, mais cette fois il était bien aseptisé. Il a qualifié les sportifs participants de lueurs d'espoir et de champions de la paix, sans mentionner vraiment la situation en Ukraine. D'ailleurs, une partie, tenez-vous bien, de son discours pendant la cérémonie de clôture n'a pas été traduite en chinois pour le public local. Les expressions champions de la paix et espoir de paix ont été omises, monsieur. Eh bien, oui, même pendant un discours en direct, on ne dit pas tout.
Oui, oui. Non, mais personnellement, moi, je n'étais pas surpris.
C'est fou. Alors voilà, ça se termine comme ça. On leur dit bon vent et à dans 4 ans.
Oui, dans 4 ans.
Oui. Maintenant, passons au tournoi d'Indian Wells et à tous les amateurs de tennis. Il y en a eu du remue-ménage là. Hein. Alors tout d'abord, pour nos Canadiens, Denis Shapovalov a subi l'élimination en 3e ronde. Il a laissé filer une avance d'un 7-0 avant de s'incliner face au géant américain Rey Opelka en 3 manches. C'était un beau match, mais la grandeur de Rey Opelka est venue à bout de Shapovalov. Plus tôt dans la semaine, on a assisté à la défaite surprise, malheureusement, de Félix Auger-Aliassime aux mains du néerlandais Botik van de Zandschulp. Je ne sais pas, Phil-Jean, si je prononce ça bien. Sûrement mieux que moi. Avec son accent allemand, tu le ferais certainement mieux que moi dès son entrée en 2e ronde. Donc, il est parti. Et pour Leila Fernandez, elle est allée un peu plus loin, mais elle s'est inclinée en 8e de finale, malheureusement, face à la championne en titre, l'Espagnole Paula Badosa, qui en ce moment même, en direct, est en train de jouer son quart de finale.
Myriam, toi et moi, on en a déjà parlé ici. On peut pas toujours gagner.
On ne peut pas toujours gagner. Oui. Elle a encore des croûtes à manger pour avoir l'expérience et aller plus loin.
C'est ça.
C'est surtout ça. Oui. Rappelons toutefois que la Québécoise de 19 ans, quand même, il faut le souligner, s'est présentée à Indian Wells, on ne l'a pas souligné l'autre fois, en étant championne en titre à Monterrey. Hein, 10 jours avant, elle a gagné le titre de Monterrey.
Au Mexique. Oui, oui.
Oui, il y a une dizaine de jours. Oui. Il s'agissait de son 2e sacre sur le circuit de la WTA. Elle fait déjà mieux que Shapovalov et que Félix Auger-Aliassime avec 2 titres. Oui. Soulignons-le aussi.
Oui, c'est vrai, la petite
Elle a 2 titres quand même
Fernandez.
Ouais.
Elle fait son petit bout de chemin.
Exact. Maintenant, Medvedev, figurez-vous, on va en parler 2 secondes plus tard, mais chez les hommes, les têtes de série du top 10 ne cessent de tomber cette année dans le désert californien. Commençons par la tête de série numéro 3, l'Allemand Alexander Zverev. Dès son entrée au 2e tour, il est parti. Puis en 3e ronde, eh bien, c'est le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, qui s'est incliné face au Français Gaël Monfils.
C'est pas vrai.
Ah oui. Quel match de Gaël Monfils. C'est le match de sa vie, je pense. Mais on connaît Gaël Monfils. Hein. Il a dans sa carrière aussi bien qu'il soit placé. Il est 29e en ce moment. D'accord.
Oui.
Mais il a déjà défait plusieurs fois Nadal, Federer et Djokovic. Hein. Il n'y a que lui qui fait ça comme ça, comme d'ailleurs.
Il n'arrête pas de super. Oui, malgré son âge un peu avancé, parce qu'il n'a pas.
Il a 35 ans.
C'est la génération de Nadal et autres, là.
Exact. Alors, il ne faut pas oublier qu'il a quand même défait déjà des numéros 1. Et comme un peu Kyrgios, d'ailleurs, hein, qui lui, il n'est même pas classé. Lui, on l'a invité ici à Indian Wells avec une carte d'invitation. Hein.
Ah bon?
Oui. Et d'ailleurs, il finit bien parce qu'il est en quart de finale. C'est incroyable. Hein.
Alors, il s'est, dit, il s'est dit, en tant qu'invité, bon, ben, je vais leur montrer ce que je peux.
Je vais bien faire. Ah. Mais il a une tête comme ça, à réfléchir comme ça. Hein. Il est spécial.
C'est
les
ça.
Gens l'adorent. Il l'invite, au fait, dans les tournois mm-hmm. parce que c'est un joueur spectaculaire.
Ouais.
C'est un joueur qui... Le Mais public l'adore. Hein.
Il aime faire du spectacle. Oui.
Voilà. D'ailleurs,
c'est, c'est un showman, comme on dit, quoi.
Exactement, comme Gaël, mon fils. Et ils ont presque ce genre de carrière. Ils arrivent à défaire des numéros 1, mais ils ne vont pas jusqu'au top de leur... C'est un manque de discipline, c'est un manque
non,
l'essentiel de beaucoup de choses. Hein.
Myriam, je dis souvent l'essentiel qu'il ait quelques millions dans le compte, et puis bon, ça va, quoi. Ils ne vont pas aller à la retraite, pauvre ceux-là.
Ils ont une façon d'approche qui est différente.
C'est ça.
Alors, donc, Daniil Medvedev, qui du fait qu'il perd, figure-toi, Fulgence, et ben il perd sa place de numéro 1 mondial. Lundi matin,
alors qu'il
revient,
oui.
et ben c'est Novak qui revient numéro 1 mondial. Même s'il ne joue pas Novak en ce moment, figure-toi que Daniil Medvedev, parce qu'il avait juste 150 points au-dessus de Novak, et quand il a perdu avant le quart de finale, et ben il perd des points, on lui enlève des points, on lui retire des points.
Alors il va en vouloir à Gaël, mon fils.
Hein. En vouloir, mais il a dit en conférence, tu sais ce qu'il a dit en conférence de presse?
Non, dis-le-nous.
Je vais le 23 mars prochain, je serai à Miami et je retrouverai ma place.
Oh, il va en vouloir à Gaël, mon fils. Bon fils.
Ouais. Justement, moi aussi je pensais quand ils allaient se saluer à la main, parce que Medvedev, quelqu'un qui s'exprime aussi, hein. Quand il n'est pas content, il n'est pas content, puis... Mais il l'a bien salué, ils ont fait une accolade bien chaleureuse. Donc
oui, oui. Wow.
Il a été fair play. Oui, mm-hmm. oui, c'est fini pour Daniil, ça a duré 3 semaines.
Merci de me donner l'envie d'aller voir les résumés des matchs ce soir. Hein.
Oh oui, puis il y a des beaux matchs ce soir. Attention, Nadal entre en jeu contre Kyrgios, ça va être spectaculaire.
Ah oui, oui.
Alors, qui est toujours là aussi? Qui est parti aussi de ces fameux top 10? Tsitsipas, le grec, aussi a disparu.
Ah oh.
C'est parti. Casper Ruud, 8e, il est parti. Et l'Italien Berrettini également. Alors écoute, le champ est ouvert. Les seuls top 10 qui restent, c'est Raphaël Nadal, numéro 4. André Rublev, numéro 7. Le reste, eh ben, c'est Kyrgios, qui, comme je vous dis, il n'est même pas classé. C'est Dimitrov, 33e. Alcaraz, ça, il va falloir faire attention. C'est le futur Nadal, dit-on.
Ah,
le
oui.
jeune Espagnol de 19 ans.
Oui, oui,
eh ben,
oui.
Il est encore
oui,
là.
Oui.
Mmh. Alors, à surveiller chez les hommes, très intéressant. Chez les dames, nous sommes déjà en train de jouer nos quarts de finale. On a la Polonaise Świątek et Sakkari, la Grecque, qui sont déjà en demi-finale avec Simona Halep. Il ne reste que Patosac, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Espagnol, qui joue en ce moment son quart de finale. Maintenant, nous allons revenir à la petite histoire de ces Indian Wells, celle de Naomi Osaka, que je sais tu aimes beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu as vu son match, Fulgence, c'était quelque chose.
Non.
Six mois après ses larmes en détresse, tu te rappelles, en conférence de presse à l'US Open, on en avait parlé ici, en onde, Naomi Osaka a encore une fois craqué et s'est mis à pleurer en plein match.
Ah oui, j'ai vu des images.
Tout ça à cause d'une insulte du public.
Oui,
quelqu'un lui a crié des tribunes, Naomi, tu es une nulle. Alors, elle a entendu ça, elle s'est assise sur sa chaise, elle s'est mise à pleurer, l'arbitre a dû sortir, descend de sa chaise, elle pleurait au fait dans le terrain encore, elle s'est mise à genoux en bas, elle a mis ses mains devant ses yeux, elle s'est mise à pleurer, l'arbitre est allé la voir, la Russe qui jouait en face d'elle a demandé à l'arbitre, est-ce que ça se fait ça, d'aller voir ce qui se passe chez la joueuse, écoute, c'est incroyable, le gros drame encore, elle dit que, c'est venu la chercher, qu'elle a vu dernièrement une vidéo des sœurs Williams qui ont été insultées dans ce tournoi,
oui.
justement, à Indian Wells,
oui.
qu'elles l'ont boycottée pendant 14 ans, et elle s'est tournée vers le public parce qu'à la fin du match, même si elle a perdu, elle a demandé la parole, elle a parlé sur le terrain, elle s'est adressée au public, elle a dit « Et tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo où les sœurs Williams sont humiliées, je vous demande d'aller la voir. » elle leur a dit ça, puis donc elle a quitté le terrain, les yeux mouillés tout au long du match. Elle s'est réveillée un peu à la fin de l'orgueil sûrement d'une sportive, du numéro 1 mondial, d'une athlète. Elle a mieux joué vers la fin du match, mais ça a été un peu trop tard. Alors Osaka a décidé de de quitter pour le moment. On ne sait pas où elle en est dans la tête.
Oh oui, moi je pense qu'elle est revenue trop vite là.
Vite. Et Fulgence, c'est drôle parce que moi je l'ai vu, je vous ai dit, au match d'exhibition pour la journée des femmes le 8 mars, à
oui.
la veille du tournoi.
Oui.
Elle était de bonne humeur, elle riait avec ses amis autour. J'ai dit waouh, elle va bien, c'est super.
Oui, il y a une fragilité.
Ça tient qu'à un fil.
Oui, il y a une fragilité encore en elle.
Elle
est remise depuis le Wimbledon là où elle n'a pas voulu aller rencontrer les journalistes pour répondre aux questions. Elle n'est pas encore remise en tout cas.
Non, elle n'est pas prête en tout cas.
Elle n'est pas prête, voilà. Voilà.
Alors, on passe au soccer maintenant. Hier soir, au stade.
Qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau, bien de neuf?
Oui, ben figure-toi que le parcours du CF Montréal s'est terminé en Ligue des Champions CONCACAF hier. C'était le match retour contre le club mexicain Cruz Azul. Ils ont fait un match nul, 1-1. Or, dans le match au Mexique, les Canadiens, les Montréalais, pardon, étaient en redevance de 2 points. Alors, ils sont venus, ils ont fait match nul, ils l'ont emporté, les Mexicains, 2-1. Ils sont éliminés de la demi-finale. C'est terminé pour la Ligue des Champions.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire maintenant? Ils vont se consacrer à leur championnat, c'est tout, quoi.
Bravo, c'est ça qu'il a dit. Ben, tu parles comme un entraîneur-chef.
Non.
Wilfried Nancy, figure-toi qu'il reste optimiste. Et oui. Se dit que maintenant, on va se consacrer à 100% à la MLS, c'est ça qu'il nous faut. Oui. On était trop fatigués de toute façon de tous ces matchs. Alors voilà, il est prêt, même s'ils ont eu quelques défaites, ils en ont eu 3 pour l'instant. Oui. Alors il a dit maintenant, on va se consacrer à 100%. Il ne faut pas oublier que quand même, ils ont des grands manquants dans leur équipe. Le milieu de terrain Samuel Piette et Mathieu Choinière.
Ils sont blessés.
Ils manquent encore à l'appel, oui, ils sont blessés, ils manquent encore à l'appel. Voilà.
Okay.
Et pour finir, sur la petite histoire, on reste sur le soccer. 9 mois après son arrêt cardiaque en plein match de l'Euro 2020, ça te rappelle quelque chose, Fulgence?
Oh oui, le... Comment il s'appelle, suédois ou bien norvégien là?
Le Danois.
Le Danois, oui, oui.
Christian Eriksen est de retour au soccer.
C'est pas vrai.
Il a repris la compétition, figure-toi, en Première Ligue, déjà le 26 février dernier. Il a joué quelques minutes, on ne le fait pas jouer, on le fait jouer à la fin, à la 52e, 55e minute, il joue. Rappelons qu'il est resté inanimé sur la pelouse pendant de longues minutes sous des millions de spectateurs.
Oui, je me rappelle de cette image encore, oui.
Moi, je l'avais vu en direct, on était sous le choc hein, ici à la maison. Alors, il était revenu à lui en sortant, mais quand même, il figure-toi qu'il a un défibrillateur sous-cutané. Donc, il joue avec ça. Le club italien l'a rejeté parce qu'il a un défibrillateur. Il lui a dit, on ne joue pas avec un athlète qui a un défibrillateur. Alors, ils ont résilié son contrat avec lui. Il est revenu à la Première Ligue en Angleterre où ils l'ont accepté, malgré un défibrillateur.
Oui.
Les Anglais, eux, dans la Ligue anglaise, ils acceptent des joueurs comme ça. Alors, donc, c'est pour ça qu'il joue dans la Première Ligue anglaise à Brentford. Et voilà.
Oh.
Et figure-toi, la bonne nouvelle, c'est
Je suis très heureux pour lui. Très, très, très content pour lui parce que là, vraiment, ça me fait penser... à un ancien joueur du Bayern de Munich, Borussia Dortmund, mais comment il s'appelle? Asamoah.
Oui,
il avait un problème de cœur comme ça aussi. Le médecin lui avait demandé d'arrêter. Il dit non, Asamoah, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir sur un terrain de foot. Il a dit non, je préfère. Il a continué jusqu'à la retraite.
Et ben voilà. Lui, c'est ce qu'il fait aussi, avec son débriefilateur, les Anglais veulent de lui.
Mmh.
Et puis, il est sélectionné, figure-toi, dans l'équipe nationale danoise. Donc, il va jouer en fin mars contre les Pays-Bas et la Serbie.
Mais si cet appareil lui permet de fonctionner comme avant, pourquoi pas?
Les médecins, s'ils lui ont dit oui, c'est qu'il doit être capable.
Voilà, de toutes les façons, même s'il y a d'autres qui tombent, qui ne se relèvent même pas lui, au moins, il est revenu en vie.
Mmh.
Voilà, il y a pas mal qui sont morts sur le terrain de foot, là, ils ne sont pas revenus en vie.
Exact.
Wow.
Donc c'est une belle lueur d'espoir.
Merci pour cette bonne nouvelle, Myriam.
Alors je
vous
dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne semaine.
Bye.
Au revoir. You used to say this, used to say that. 2 steps front, then you pull back. Whoa, you ain't no me. Tu as peine. Laisse-moi avoir des tours. C'est la chaîne. Oui, Marie-Luce Bélin. Roméo, Marie-Luce Bélin. Roméo, c'est le titre de la pièce et le nom de l'artiste, Marie-Luce Bélin. Voilà, rapidement, le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a été attribué hier, 16 mars, à la Montréalaise Julie Doucet. Voilà, donc depuis 2014, ce Grand Prix du Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui a attribué à la suite d'un vote de la communauté des auteurs professionnel de bande dessinée. Voilà, c'est comme ça, ce qui vient promouvoir auprès du public un artiste pour l'ensemble de son œuvre et son empreinte sur l'histoire de la bande dessinée. Cette anthologie de 400 pages comporte outre la totalité des histoires issues des recueils Ciboire de Chris et autres. Donc, Maxi Plot rassemble des travaux réalisés par Julie Doucet au cours de ses 12 années d'activité d'auteur de bande dessinée de 87 à 99. Alors, c'est un petit clin d'œil. Bravo, merci. Et voilà, elle fait autre chose maintenant. Voilà, avant, c'était ce qu'elle faisait. Comme je l'ai dit, de 87 à 99, c'était les bandes dessinées. Donc, cette maxi-plot de 400 pages, voilà, lui a permis, d'avoir ce prix-là. Et puis, rapidement, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais parler de danse. Mon corps se parfait aux dangereuses intentions. Les danseuses Valeska et Florence Leclerc auront recours aux plus belles voilà, traditions de danse du Moyen-Orient pour cette soirée où l'étoffe des costumes suivra le mouvement enivrant des gestuels les plus sensuels et raffinés. Danses persanes et orientales seront mises à l'honneur, appelant une sagesse du corps oubliée, voire négligée d'ailleurs, et puis bon, une expression subtile et chatoyante des émissions, des émotions les plus diverses. Ça se passe quand? Là, il faut le savoir. Claude Léveillé, salle Claude Léveillé, le 24 mars. C'est bientôt, hein? Ouais, réservé, hein? C'est 0$. Entrée gratuite, hein? Mais il faut rêver. Il faut réserver quand même. Il faut appeler pour faire sa réservation. Voilà. On va en musique pour terminer cette première partie de l'émission. Avec qui? Avec Raph Pilon. Savior.
Walking down city lanes and teardrops are falling. I don't know when it'll end. This feeling's unspoken. Had to cry, realizing we're saying goodbye while the feelings aren't fading away. Those were the hard times, but we're here for good times. We'll find a way. Might not ever feel the same. Doesn't mean it can't be better. Might have been the one to blame, but baby, I could be a savior. Each other might have been the one to blame, but baby, I could be the savior, the savior, the savior. Walking down city lanes, and I might be mistaken, but I still believe in the end. Those teardrops mean nothing. 'Cause I know I'll be back, and I never forgot those times we felt more than okay. Under the treetop, down at the old dock, on that first day. Might not ever feel the same. Doesn't mean it can't be better. Might have been the one to blame, but baby, I could be a savior. 'Cause everything we did of late shows that we do care for each other. Might have been the one to blame, but baby, I could be. Can't rewind, but I got this feeling, girl. I lost my mind, thinking it's too late. I know we can't rewind, but I understand it might not ever feel the same. Doesn't mean it can't be better. Might have been the one to blame, but baby, I could be a savior. 'Cause everything we did late shows that we do care for each other. Might have been the one to blame.
city lanes and teardrops are falling. I still believe in the end, those teardrops mean nothing.
Raph Pilon, Sever. Voilà, Sever. Voilà, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire et puis la première pièce musicale de cette deuxième partie d'émission. Je vais recevoir Stéphane Dampierre qui va nous parler de son nouveau livre, de son nouveau roman Novice, qui est son septième si je ne me trompe pas. Il est en librairie depuis le 1er mars 2022. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, attendez, et on va parler un peu de ça en profondeur avant de courir. Vous pouvez courir à la librairie si vous voulez. Hein. Vous procurez votre copie. Allez, tout de suite, restez à l'écoute.
Pascal 17-18 avec Fulgence Blas.
Someone who's living out here. That's your life.
Saki et le titre de la pièce qu'on vient d'écouter, Fetch Your Life. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Stéphane Dompier, qui va nous parler de son 7e roman. Il va me corriger si je me trompe. Novice. Voilà, c'est ce quand 11 personnes, s'inscrivent dans un camp de débranchement. Elles sont loin de réaliser l'ampleur du deuil auquel elles devront faire face. Rien ne les a préparées au régime de sevrage aux appareils électroniques qu'elles devront suivre durant une semaine. Waouh. Alors là, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Face à un environnement hostile et un tueur anonyme, trouveront-elles la débrouillardise nécessaire pour survivre ? Avec Novice, Stéphane détourne les codes du cinéma d'horreur pour produire une comédie aussi finement articulée qu'impitoyable envers notre époque. Bonjour Stéphane Dompierre.
Bonjour.
Merci d'avoir eu le temps de venir parler de ce, je peux dire, du nouveau bébé.
Oui, effectivement.
Qui est sorti tout frais, là. Il est en librairie depuis le 1er mars 2022.
Voilà.
Je l'adore. Oui. Ah oui. Je l'adore. Et c'est votre 7e roman. Est-ce que je me suis trompé du chiffre
Non, c'est bien ça. Moi-même, j'ai de la misère. Des fois, il faut que je me souvienne. Ça me prend un certain temps pour m'en souvenir. Mais mon 12e livre.
C'est votre 12e livre. Ouais. Travaux manuels, recueil de nouvelles avec Sarah Maud Bouchène. Et puis Nu, recueil de nouvelles érotiques, Stéphane. Mm-hmm. Voilà. Et puis, bon, Tromper Martine, Marcher sur un Lego et autres raisons. Plein. 12e, quand même.
Ouais.
Est-ce que Stéphane vit de sa plume?
Stéphane vit de son métier d'éditeur, donc j'ai longtemps vécu de ma plume, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de scénarisation. À un moment donné, j'étais chroniqueur au Elle Québec et aussi sur Yahoo Québec.
Oui.
Donc j'ai vécu pendant une dizaine d'années, je dirais, de ma plume, mais je commençais à trouver ça un peu stressant et j'avais envie de me poser dans quelque chose de plus... qui n'était pas toujours une recherche d'emploi aussi, parce qu'évidemment, un travailleur autonome, c'est que tu es toujours en train de travailler et en train de penser à qu'est-ce que tu vas faire aussi dans c'est les 6 prochains mois.
Non, je sais de quoi vous parlez.
Et voilà. Fait que pour moi, quand on m'a offert de faire du travail éditorial chez Québec Amérique, qui est aussi mon éditeur de mes livres, donc j'ai vite accepté, je me suis vite aperçu que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et qui... moi, je suis un autodidacte, alors j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris comme auteur me sert beaucoup, beaucoup comme éditeur aussi.
Oui. Merci de nous mettre dans ce monde avec ces 12, ces 11 personnes, et puis là, dit, bon, ben, vous allez dans ce camp-là, et puis, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, il y a des parties qui m'ont fait sourire, tout ça, je me suis dit, ouf, on est tous devenus tous esclaves virtuels, hein, si je ne me trompe pas.
Ben, oui, d'une certaine manière, tu sais, puis... C'est intéressant quand vous dites qu'on va tous se reconnaître parce que effectivement j'ai fait des personnages qui est un peu ce qu'on appelle des archétypes dans les films d'horreur, c'est-à-dire qu'il y a l'influenceuse, il y a la, qui a l'air un peu nounouche au départ, mais qui a quand même une sensibilité, c'est quand même une humaine. Il y a un barista qui est toujours qui lui pense toujours à sa prochaine photo. Il y a quelqu'un qui est amoureux du cinéma, mais que quand il n'y a pas Google pour ses références, il oublie les noms des films, des auteurs, des acteurs.
Ça, c'est clair.
Donc, pour moi, je voulais me servir de tous ces personnages-là pour montrer à peu près toutes les facettes de comment la vie numérique nous influence maintenant et comment elle nous sert beaucoup, en fait, parce qu'évidemment, si on est dépendant de la technologie, c'est pas pour rien aussi, c'est parce que la technologie nous sert. Si au départ, on avait senti l'inutilité de la chose, ben personne ne se serait servi de ces technologies-là. Donc, je pense qu'il faut pas oublier qu'on s'en sert beaucoup, c'est très utile, sauf que pour moi, le constat et ce qui m'a intéressé en écrivant Novice, c'est de dire, ben si... De quoi on a l'air quand soudainement on est coupé de ces technologies-là? Est-ce qu'on est aussi débrouillard qu'on pense l'être? Est-ce que notre culture prend le bord? Est-ce qu'on se souvient de notre culture? Est-ce qu'on est capable d'avoir des conversations normales si on n'a pas Google pour aller chercher les informations qu'on cherche?
Oui, si on n'a pas ces gadgets avec nous. Dans nos sacs, ouais. Dans nos poches, moi je les appelle gadgets. Quelquefois, ben, mon téléphone cellulaire, il a tellement de fonctions. Ce n'est même pas Apple, c'est... Samsung, tellement de fonctions, mais les deux fonctions que j'utilise, c'est texto et téléphoner, recevoir des cours. Voilà, c'est tout, quoi.
Ah oui, quand même.
je veux pas aller plus loin que ça. Est-ce que...
Très old school.
Oui, oui, oui. Non, non, je suis resté old school, c'est vrai. Je n'ai pas de iPad, rien du tout. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre parler de ça. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes posé la question de savoir comment on est arrivé là que vous avez écrit ce livre?
Ben, c'est pas comment on en est arrivé là. Pour moi, quand j'écris un livre, c'est jamais au on, c'est tout le temps au jeu.
Oui.
Donc, pour moi, ça part vraiment d'un constat personnel. En fait, pour moi, c'est vraiment mon rapport aux technologies. Oui. Et il y a une anecdote. Ouais,
je profite pour dire, est-ce que Stéphane se met à nu ici un peu?
Ah, toujours, parce que...
OK. Allez, allez-y.
Je serais incapable, en fait, de passer 3 ans à écrire un livre qui parle de quelque chose qui est loin de moi.
Oui.
Donc pour moi, il faut que ça me touche. Et l'anecdote qui est dans le livre et qui a été un peu l'initiatrice, du roman, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans un chalet avec des amis.
Oui.
Et on était dehors au coin du feu et on regardait les étoiles. Et là, on s'est mis à parler des applications qui pouvaient nous montrer tous les noms des étoiles, des galaxies, des constellations. Et là, on s'est excité autour de cette application-là.
Oui.
De fil en aiguille, on a parlé d'une application où si un avion passait au-dessus de notre tête, on pouvait le localiser, savoir il venait de où, il s'en allait où. Et on était bien excités de ça, mais on n'avait aucune idée à quoi ça pouvait servir. Puis pour moi, c'est intéressant parce qu'on était dans la nature au coin du feu, mais on était en train de parler d'applications numériques.
Oui.
Donc pour moi, il y avait quelque chose là de fascinant de dire on est en train de parler, de voir cette même nature-là, mais au travers des écrans, au travers de la technologie. Donc, pour moi, c'était très révélateur de où on en est rendu. Même notre rapport à la nature a changé avec les technologies. Donc, pour moi, c'était pas banal.
Oui.
Et pour moi, l'idée qui m'intéressait, c'était justement de mettre des gens qui sont tous, ces 11 personnes-là, sont tous très fonctionnels dans la vie courante, dans l'urbanité.
Oui.
Donc, pour moi, c'était de les transposer dans un milieu où ils sont complètement inconfortables, c'est-à-dire en nature, sans appareil technologique. Donc, pour moi, je pense que ça, toutes nos obsessions technologiques sont représentées ou à peu près dans ce livre-là. Et pour moi, c'était aussi l'occasion d'y aller avec mes amours du cinéma d'horreur. Donc, pour moi, j'ai mis un scénario de film d'horreur là-dedans aussi, de ce qu'on appelle le slasher communément. Là, qui
D'où vient cet amour pour le cinéma d'horreur?
Ben, le cinéma d'horreur, je l'ai découvert très jeune. En fait, moi, j'avais des frères et sœurs plus vieux et vieilles. Et je pense qu'ils écoutaient des films d'horreur. Et moi, j'étais dans ma chambre et j'entendais juste le son et ça me terrorisait.
Mm-hmm.
Fait que mes parents se sont aperçus que c'était mieux pour moi de les regarder avec eux que de juste entendre le son. Parce qu'on dirait que mon imagination faisait que c'était plus épeurant que de regarder. Quand je le regardais, je voyais,
okay.
des têtes en caoutchouc qui revolent avec du faux sang. T'sais. Donc, pour moi, ça me rendait moins craintif. Donc, je me suis mis à... J'ai eu une petite obsession plus jeune sur les revues, par exemple, Inexpliquées, là, pour ceux qui se souviennent de cette revue-là. Il y avait toutes sortes d'affaires, les ovnis, les fantômes, les gens qui mouraient de combustion spontanée. Donc, il y avait des trucs épeurants là-dedans. Et j'ai beaucoup lu aussi, évidemment, Stephen King, mais aussi Jean Rey ou des Richard Matheson qui faisaient de la nouvelle, un peu de peur ou de science-fiction.
Okay.
Donc, pour moi, mon amour vient de là et je l'ai un peu redécouvert récemment. Et moi, qui fais beaucoup d'humour, je me suis aperçu aussi que l'horreur est très proche de l'humour. C'est-à-dire que si on regarde des gens dans une salle de cinéma d'horreur, à un moment donné, ils sursautent, ils ont peur, et tout de suite après, qu'est-ce qu'ils font? Ils rient.
Oui.
Donc, pour moi qui a beaucoup travaillé l'humour dans mes premiers livres, et je trouvais ça intéressant d'aller dans la suite, c'est-à-dire l'horreur qui précède le rire. Donc, pour moi, j'avais envie de faire une comédie d'horreur. Je trouvais que pour moi, c'était une belle nouvelle étape dans ma carrière d'aller vraiment d'aller jouer dans un genre qui est très, très codé aussi. Hein. Le cinéma d'horreur, il y a quand même ses paramètres assez clairs. Donc, pour moi, je trouvais ça intéressant de prendre une recette et de jouer avec, de changer des ingrédients, évidemment, et de changer des trucs de bord et de jouer un peu avec les attentes des gens. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi quand on va dans un terrain que les spectateurs connaissent, ben, on peut déjouer leurs attentes.
C'est-à-dire
que si toi tu dis, OK, ben, là, c'est le moment où celui-là va mourir parce que c'est comme ça dans les films, ben moi, mon plaisir, c'est de dire non, je vais trouver une autre façon.
Je vais trouver une autre façon. Voilà. Stéphane, on fait une petite pause musicale et puis on vous revient. À tout à l'heure.
Bien sûr.
Merci. Daniel Bélanger, te quitter. Notre invité est toujours avec nous, Stéphane Dampierre, qui est venu nous parler de son nouveau livre, Novice aux éditions Québec-Amérique. Voilà, il y a des règles, évidemment, elles sont affichées sur le babillard en liège à l'entrée du chalet principal, celui dans lequel les participants prendront leur repas. Il y en a quatre. Elles sont très simples, précise Gabriel. À la petite assemblée, oui. Voilà, on dit des appareils électroniques, on parle bien sûr de vos téléphones, mais aussi de n'importe quoi d'autre que vous auriez pu apporter. Tablette, ordinateur, iPod, iPad, GPS, GPS en français bien sûr. Tout ce qui se connecte d'une façon ou d'une autre à un réseau, même les appareils photo. Stéphane.
Et même les Tamagotchi, très important.
Oui, mais c'est comme je me suis dit, mais j'aimerais pas être à la place de ces 11 personnes, pour c'est une torture pour ces gens-là, pour une semaine sans ces appareils.
Oui, ben surtout si on ajoute un tueur masqué avec une hache dans le tableau.
Oui.
Ça devient un peu plus difficile à gérer.
Oui. Mais comment est-ce que la société peut consommer avec modération ces gadgets?
Ben, je pense que, en fait, moi, ce que je me questionne, et j'ai pas la réponse, c'est que je me demande les plus jeunes générations s'ils vivent mieux que par exemple, moi qui est quelqu'un de la génération X. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment vécu le sans technologie et l'arrivée de la technologie. Donc, on dirait que moi, j'ai senti une transformation dans ma façon de vivre et ma façon de faire les choses, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui,
oui,
est né là-dedans. Donc,
qui ne connaît rien d'autre.
Exactement. C'est là-dedans que tu as toujours vécu. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande transformation, par exemple, depuis 10 ans. C'est-à-dire que depuis que Facebook existe, depuis que les connexions se font à haute vitesse, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une grande transformation, mais les grandes transformations ont été un peu avant ça. Donc, j'ai l'impression que les plus jeunes n'ont pas tellement vécu. Fait que j'ai l'impression que, par définition, ils vivent mieux avec cette technologie-là que nous qui avons connu, mon Dieu, dans le temps où on se parlait. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir perdu quelque chose avec ça, qui savent plus relaxer, qui savent plus se détendre. Alors que j'ai l'impression que les plus jeunes, ben, se détendre vient s'intégrer dans leur routine avec l'utilisation des technologies. Donc, je pense que c'est quand tu as connu le avant et le après que c'est plus difficile à vivre que pour le reste.
Oui, que pour le reste. Alors, moi, le selfie. Mais ce n'est pas Mathieu venu les remettre dans le droit chemin, qui même est randonneur motivé avec des bâtons de marche, une gourde, un sac d'amandes et une boussole. Et qui pourrait leur indiquer le nord-ouest ou le nord-est, encore moins un expert du Apple Store qui se ferait un plaisir de leur mentionner avec un air suffisant d'ailleurs que s'ils veulent absolument une boussole, parce qu'ils croient encore que ça pourrait régler leurs problèmes. Il y en a une dans chacun de leur iPhone. Ça dit tout, hein?
Ouais, ben c'est ça. T'as beau avoir une boussole dans ton téléphone, est-ce que tu sais t'en servir et est-ce que tu vas t'en trouver si t'es perdu grâce à ça? Je ne crois pas.
Oui. Ouais, non, sincèrement, c'est je me suis demandé, bon, ben, effectivement, c'est pourquoi j'ai dit au début de notre conversation, esclave virtuel. Et quelque part, et puis consommer avec modération, c'est comme l'alcool et la cigarette et autres, comme toute drogue. Parce que quand on rencontre, quand on rencontre les gens dans les rues, ils ont le visage dans le téléphone, comme le cycliste, son visage dans le guidon. Voilà, quelque part, les gens, même, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a une voiture qui arrive, hein, mais ils passent.
Ouais.
Et puis on se dit, mais c'est dangereux tout ça. Et ces gens, quand ils vont lire ce livre, ils vont se dire, est-ce que ce livre de Stéphane Stéphane Dompierre dont je suis en train de lire va me permettre de me déconnecter un peu de temps en temps, juste pour retrouver un peu une certaine normalité sans être accro de ces gadgets-là?
Si un livre aide à décrocher quelques heures pour se détendre, c'est toujours ça de gagner, c'est sûr.
Oui. Qu'est-ce que s'il y a un conseil à donner à ceux à qui, moi, je fais partie, je suis pas en train de me mettre à côté de ce que vous décrivez, ouais. Je fais partie de ces gens-là. Je suis pas accro, mais quand même, il faut que je sois joint au téléphone, ça c'est clair. Il faut que je puisse envoyer les textos. Pour ceux qui, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil?
Je dirais que la nuance importante, c'est que j'ai pas de conseil à donner au départ, dans la mesure où c'est pas un livre éducatif.
Chacun le prend comme il veut, quoi. Voilà.
Exactement. Pour moi, je voulais pas juger ces personnages-là, mais je sais que moi, personnellement...
Non, en aucun cas. Vous ne jugez nulle part dans le livre. Hein. Vous ne jugez personne là-dedans. Oui.
Non, pour moi, c'est important, comme dans ma démarche d'auteur, de laisser l'intelligence des lecteurs opérer sur mon livre. Donc, je vais pas dans le jugement, mais je sais que pour moi, en fait, j'ai l'impression que les moments où j'utilise un peu frénétiquement les réseaux sociaux et tout ça, c'est des moments où... j'ai un certain stress dans ma journée, par exemple. C'est, c'est comme j'ai besoin d'une petite dose de dopamine pour me changer les idées. Et je m'aperçois que en fait, c'est comme un symptôme de quelque chose. Et je me dis, ben juste me détendre, aller promener le chien, aller manger un fruit est aussi profitable que de faire une fois de plus le tour d'Instagram. Je dis pas que je fais pas une fois de plus le tour d'Instagram, mais j'essaie d'en prendre conscience, en fait, quand je fais ça un peu impulsivement, juste pour avoir une petite dose de nouveauté, en fait, parce que c'est à ça qu'on est accro, hein, particulièrement c'est sur ça. Les réseaux sociaux.
C'est ça.
C'est que ça dégage une espèce de d'hormone du bonheur, c'est la micro-nouveauté, en fait.
C'est ça.
Nouvelle photo, un nouveau message d'un ami, ça sécrète des hormones qui nous donnent un certain réconfort, et c'est ça qui nous rend accro aux réseaux sociaux.
Oui, à nos gadgets, aux réseaux sociaux. Voilà,
ouais.
Alors, il faut savoir décrocher. Merci beaucoup Stéphane Dompierre.
Et puis, ça me fait plaisir.
Pour ceux qui n'ont pas encore ce livre, il est déjà en librairie depuis le 1er mars. Allez-y chercher votre copie. Et je pense bien que, voilà, il va nous surprendre encore avec quelque chose, un 13e livre d'ici peu. Merci et bon vent. Bon vent avec le nouveau livre, Stéphane Dompierre.
Merci, c'est gentil.
Merci, au revoir.
Au revoir. Oui.
When I see a girl that I catch a fever, make up, can never leave you alone. Always want to see her. Are your advice on the phone? 'Cause I know something, something, something special about you. 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 Feelings coming over, I never felt this way for nobody. I'm asking for weed and you can't find it. Just thank you, my addiction. I never know you could be the one until I've seen it.
Gypsy and Something Special. Voilà, on a la fin de l'émission comme ça. Je dis merci à Myriam Larache pour les nouveautés sportives et merci à Stéphane Dompierre qui vient nous parler de son nouveau livre Novice aux éditions Québec Amérique. Il est déjà en librairie depuis le 1er mars 2022. Merci à toi Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine parce que demain tu n'es pas là. Voilà, l'année prochaine. Merci à nos fidèles auditeurs et puis bon, ben, sur ce, je vous dis ciao.